Salut, salut tout le monde, bienvenue à Angle Mort aujourd'hui, merci de vous abonner, merci de me suivre, toujours très, très stimulant pour moi. Alors, après, mais ma foi, des mois de retard que je vais vous expliquer, croyez-le ou non, mon livre « Ouin Pi », donc « Réapprendre à être contrarié » est actuellement en Kindle sur Amazon. Donc, allez jeter un œil, faites Marc Boilard dans l'onglet de recherche d'Amazon en attendant que je le mette sur mon site. Mais là, c'est juste la version Kindle, la version papier qui fait 66 pages. Donc, c'est très bref. Va être, je pense, aujourd'hui ou demain sur Amazon. C'est de la magie pure. Comme je vous avais dit, 9,95 $, livré chez vous, imprimé un à un. J'ai aucune idée comment... ils font. Puis ils disent combien ils prennent. Hein? Ils prennent genre... c'est en bas de 3 piastres. C'est comme 2,63 $, une affaire de même. Écoutez, c'est une expérience... moi, il faut vraiment que je vous dise comment j'ai écrit ce livre-là. D'abord, je pensais qu'il serait prêt en juin. Puis il y a eu plein de retards, 100% par ma faute. De un, parce que j'étais très improductif. Ça avançait très mal, je travaillais mal, c'était comme, je sais pas, c'est qu'à un moment donné, je me suis discipliné à dire, OK, là, moi, je ferme tout, je fais rien avant 10h le matin, la première affaire en me levant. Ça a terminé mon livre. Ça fait que la méthode de travail a fait une grosse différence. Après ça, j'ai cherché sur Upwork quelqu'un pour le corriger. C'est venu de partout dans le monde. C'est Éric Pilon, un gars que je félicite. Avec qui j'ai travaillé, qui est ici, au Québec. Je ne sais pas dans quelle ville. Je l'ai pris parce qu'entre autres, lui publie déjà des livres sur Amazon. Donc, il savait comment faire la mise en page parce que ça aurait été un petit peu du trouble. Il y a eu des délais là aussi, bien entendu. On pense que ça prend une semaine, ça en prend deux. C'est toujours comme ça. Mais la faute à personne, c'est comme ça. Ça fait que, voilà. Donc, c'est un livre que je suis content, mais sans plus. Dans le sens que ça n'a pas été écrit comme il aurait fallu que ça soit écrit. C'est-à-dire que je suis très content de la théorie de base. Le contenu, ça se résume à 5 questions que je propose de se poser à chaque fois qu'on sent qu'on est un peu... Ça fait que, en tout cas, bref, vous pouvez aller voir, parce que si vous allez sur Amazon puis vous cliquez mon nom, vous allez voir... mes autres livres sont là, d'ailleurs. Vous allez voir Ouin Pi. Puis vous allez lire ce qu'on appelle le quatrième de couverture, donc le verso, mais bref, la couverture arrière. Puis tout est très bien résumé, là. Ça fait que je vous invite à le faire, puis vous allez voir. Ça coûte $4,95 en version Kindle et $9,95 quand le livre va sortir. C'est ça, comme je vous dis, c'est pas mon contenu, je le trouve vraiment pertinent. Je trouve vraiment que c'est un apport dans cette espèce de brouhaha-là, de monde qui est fâché puis qui se crie après partout. Je crois réellement que ça a du sens. Mais, tu sais, je me relisais puis je faisais « Caroline, c'est comme un peu saccadé. Tu sens que ça a été écrit, il y a un bout qui a été écrit en mai, il y a un bout, tu sais. » C'est juste ça qui me déçoit un peu. Je vous le dis ouvertement, là. Ça fait que tu lis ça, tu sais, puis c'est pas comme... Ça n'a pas l'effet bang que j'aurais voulu. Je pense que... Mais bref, l'idée, c'est que c'est un livre qui est court, qui se lit très... Écoutez, je pense que ça se lit là, en dedans d'une heure et demie, vraiment. Puis j'en sors un par année. Ambition que j'avais depuis le jour 1. Puis que, tu sais, là, le manuscrit, l'éditable, aujourd'hui, tu fais comme... Non, ça s'en va sur Amazon, c'est tout. Puis après que t'en as fait un, c'est comme... Ciao, bye, away, tu travailles sur l'autre. Fait que moi, je vais en sortir un par année minimum. Je suis capable d'en faire deux parce que ça va toujours être des 50 à 75 pages. Mais je ne vais pas les écrire en petits bouts. C'est-à-dire, j'ai déjà décidé que cet été, ça va être le prochain. Parce que l'été, moi, habituellement, c'est plus relax. Et puis, probablement même en janvier. J'ai un nouveau projet de prendre janvier off. Quand j'étais allé en Floride la dernière fois, la semaine passée, je me suis dit, crime, pourquoi je ne vais pas en janvier à l'extérieur? S'il y a de la job, anyway, je peux la faire par Internet quasiment 100%, parce que même les conférences se font par Internet. Donc, quelqu'un pourrait dire, « Hey, conférence le 23 janvier en personne. » Ah, malheureusement, je suis juste dispo en janvier, je suis juste dispo en virtuel, tu sais. Ça fait que, bref. Fait que tout ça pour dire que je suis quand même content, là. Je suis quand même content. Mais je m'attends pas à des super réactions. Je m'attends pas, tu sais, comme le cas de Boilard, ça avait fait, là, répression. Puis là, il y en a qui étaient pas d'accord. Tu sais, ça avait... Il y avait un... Il y aura pas ça, là. On est pas le pantoute. Ben, j'ai pas de volonté d'être là-dedans non plus, là. Mais, je répète, c'est intéressant, mon point de vue sur comment la contrariété, j'essaie de faire un peu une explication, est comme pire que jamais, puis c'est quoi les vrais outils sur le terrain. C'est que c'est un vrai livre de trucs. Là. Là-dessus, ça ressemble à mon premier. C'est moins théorie là, que les deux autres avant. Là, mais en tout cas, ça va être bientôt sur marcboilard.com, puis ça va être là que je vais vous inviter régulièrement à vous rendre. Je vais peut-être mettre des extraits sur mon Facebook aussi. Puis pour mes membres Patreon, ben, je l'ai donné. C'est que c'est un argument de plus. Si ça vous tente, abonnez-vous à mon Patreon. Ça coûte des peanuts. Il y a une vidéo par mois. Et puis, je l'ai donné en version PDF, toute proprette, pareil comme tu l'achètes en Kindle. Ça fait que, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de rire, parce que Chantal Guy a écrit un article. Chantal Guy, by the way, c'est une fille qui, si elle se souvient de moi, elle me déteste. Elle était venue voir, elle avait couvert ma première de « Moi, si j'étais une fille » en 2004 au Festival Juste pour rire, où l'ambiance avait été froide et où la réception de sa part avait été épouvantable. Je m'en doutais, mais si ça avait été comme le show de la veille, je pense qu'on a fait la première un mercredi, puis la veille, le mardi, ça avait revolé, mais à côté. Ça fait que mon espèce de départ de testostérone pour arriver dans mes propres affaires avait beaucoup de potentiel. Ce show-là marchait très bien en salle, mais il était invendable, tu sais, parce que, je veux dire, le gars le plus macho de l'histoire du Québec qui fait un show qui s'appelle « Moi, si j'étais une fille », tu sais, ça manquait d'humour, ça manquait de tout. C'était une période où mon audace était sans borne. Puis quand t'es audacieux sans borne, ça peut donner Picasso, puis ça peut donner Marc Boilard avec « Moi, si j'étais une fille ». Dans le fond, j'ai travaillé ces projets-là à l'envers. Si j'avais sorti « Moi, si j'étais une fille », puis j'étais parti à testostérone après, ben le monde aurait fait « Regarde, on l'a trouvé rigolo, intéressant ou pas, mais bref. » Mais là, après ça, tu sais... Puis en plus, j'ai appris une grande leçon que je vous refile, immense. À la télé, il faut que tu sois rassembleur puis relativement politically correct. À la radio, tu peux te permettre beaucoup plus. En podcast, tu fais à peu près ce que tu veux. Puis sur scène, tu fais littéralement ce que tu veux. À vrai dire, si t'es propre sur scène, bonne chance d'avoir du Jean-Michel Anctil en toi, parce que sinon, tu vas être un parmi d'autres. Puis moi, j'ai fait l'exact contraire. J'étais arrivé, j'ai fait la chaîne que je vous parle, j'ai fait l'exact contraire. Parce que personne m'avait dit ça, personne n'avait fait... Personne n'avait mon cheminement. Ça fait que, tu sais, je veux dire, j'avais beau travailler chez Spectra, personne ne savait que, par quel bout de prendre ça, cette bébite-là, tu sais. Ça fait que moi, je suis arrivé à la TV hyper fendant, prêt à tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui, ça m'a mis au monde, mais après ça, ça m'a barré. Ça m'a pas barré, je veux dire, ça m'a barré de la télé, là, comprenons bien. Puis après ça, toutes les autres, ben je faisais des proportions un peu inverses, tu sais. Alors que c'est ça, à TV, il faut que tu sois Véronique Cloutier, puis tu peux être Mike Ward sur scène. C'est quand tu fais l'inverse, c'est ça que ça donne. L'hiver, le char part mal. Bref, je reviens à Chantal Guy qui m'avait vraiment démoli, mais comme plein d'autres, là, à l'époque, les journalistes puis les comédiennes particulièrement me détestaient. Les comédiennes, c'est parce que j'étais trop sûr de moi. Les journalistes, c'est que, tu sais, je veux dire, j'étais à l'antipode de leur sensibilité. Puis c'était très provoquant, mon affaire, là, tu sais. J'étais au courant, là, comme on dit. Mais bref, puis c'est ça, c'est que Chantal... Ceci étant dit, moi, j'ai toujours eu cette... Je suis tellement rentré avec force, si tu veux, à la télévision, puis je savais tellement ce que je faisais que j'en ai jamais voulu, moi. Tu sais, quand je vous parle de Marc Cassivi, je suis tout le temps en désaccord avec lui, mais j'ai rien de négatif à dire. Je suis en désaccord, mais le gars, il est bon, il est pertinent, il a sa place dans ce journal-là, tu sais. Chantal Guy, c'est pareil, je l'ai jamais haï à cause de ça. C'est comme je trouvais que c'était une critique très convenue de la fille féministe qui est pas contente, mais elle est tombée sur un soir où est-ce que l'ambiance était très ordinaire, puis je demande pas aux journalistes qui couvrent l'humour, sauf exception, Pascal Lévesque, entre autres, mais je demande pas aux journalistes qui couvrent l'humour de comprendre toute la mécanique qu'il y a. Ça fait qu'ils sont eux-mêmes influencés si ça rit ou pas dans la salle. C'est de même. Ça fait que ça a été une soirée qui était froide pour toutes sortes de raisons de première. Peut-être on a invité trop de... Je sais pas. La veille, ça avait été de la magie. Je me souviens, Guy Laforce, dans le coulisses, il avait dit « Hey, on va avoir du fun avec ce projet-là, ça va être écœurant. » C'était vraiment ça qu'on pensait qu'elle allait arriver. dans la vraie vie, ça a été invendable parce que mes critiques ont été tellement... Écoute, ma critique dans le Journal de Montréal, même pas Chantal Guy, elle, c'était La Presse, c'était les deux pires mots qu'un artiste peut avoir pour une critique. Les deux pires. Depuis 2004, personne n'a eu une critique avec les... Le titre était « Prétentieux et plate ». Pense à ça. Un spectacle prétentieux, c'est déjà moins pire. Des bouts plates, mais c'est moins... Mais juste « Prétentieux et plate ». Aïe, aïe. Puis ça ne m'avait pas vraiment frappé parce que je faisais que me faire rentrer dedans par les médias qui nourrissaient mon personnage à mort. Donc, tous les fans un peu de testostérone et tout, eux autres, ils tripaient, tu sais. Ça a toujours été cette dynamique-là. Plus tu tombes sur la noix à Mike Ward, plus sa gang achète des tickets, tu sais. Fait que j'étais dans cette espèce de vibe-là. Mais tout ça pour dire que Chantal Guy, elle a très bien maturé, puis elle écrit des articles, franchement, très fins, particulièrement brillants. Ça fait que, voilà, que si aujourd'hui, je suppose qu'elle n'a pas de nouvelles de qu'est-ce que je fais, puis de Radio à Québec ou de Angle Mort, là. Mais si vous la connaissez, saluez-la de ma part parce que je lis presque tous ses articles que je trouve très intéressants. Puis aujourd'hui, elle est allée voir Adib Al-Kaïdé qui joue à côté au Jésus, puis qui fait un nouveau spectacle en rodage, donc plus long que court, là, 2 heures si on lit. Puis lui, il dit l'humour, c'est la célébration de la démocratie. Puis la phrase est de lui, semble-t-il, je trouve ça très intéressant, c'est repris par l'article de Chantal Guy dans la presse. Puis c'est vrai, ça a beaucoup de sens, parce que les gens autoritaires sont toujours très sérieux, tu sais. Puis ça, moi, dans ma conférence, l'humour au travail, là, je pars avec ça. Je pars avec 3 fausses croyances avant de tomber comment faire pour qu'il y ait plus de fun dans l'organisation qu'on appelle la job, le travail, mais dans toutes les organisations. Puis je pars avec une croyance que j'ai totalement ferme, que j'ai vécue toute ma vie, c'est qu'il y a trop de monde qui pense que pour être crédible, il faut être sérieux. Incluant à l'échelle extrême les dictateurs. Tu te dis qu'un dictateur... Tu sais, quand Vladimir Poutine a fait son long hiatus sur le fait qu'il allait rentrer en Ukraine, je veux dire, c'est pas Jojo, là. Puis je veux dire, tu te dis, ouais, mais imagine-toi qu'il fait des jokes à travers ça. Mais Zelensky est capable de rester quasiment de bonne humeur. C'est hallucinant. Des fois, il est très sérieux. Puis je l'ai vu faire encore un matin, il finit sa vidéo avec un clin d'œil. Tu fais aïe aïe. Le gars passe pour le héros ultime. C'est Marvel va faire un Zelensky là, dans pas long. C'est juste pour vous dire qu'à part les cas vraiment extrêmes, mais qui quand même confirment le point, il y a cette espèce de croyance-là chez un peu tout le monde que pour être crédible, il faut être sérieux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je te dis pas qu'il n'y a pas un certain talent à avoir. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Mais c'est pas vrai que c'est une donnée de base. T'es pas obligé d'être sérieux pour être crédible. Tu peux déconner, puis la minute après, tout à coup, t'embarques dans ton sujet. Puis moi, je me le faisais dire par des gens avec qui je dealais quand j'étais gérant d'artiste. Jean Bourque me parlait de ça, qui était technicien booker. Je me souviens d'André Saint-Amand qui m'avait souligné ça en disant, « Calvaz, il dit, tu rentres dans le bureau, c'est tout feu de flamme, mais t'es un des gars avec qui je ris le plus, puis quand vient le temps de négocier les contrats à Morancy, il m'a dit de quoi, t'es dur en tabarouette. » C'est lui qui m'avait dit ça. Il n'y a pas de lien. Il y a juste le lien quand on pense que le paraître fait la crédibilité. Non. Vous ne pouvez pas vous rendre crédible parce que vous essayez d'acheter quelqu'un. C'est comme la confiance. La confiance, ça vient avec 2 éléments. Ça vient avec la compétence perçue. Donc, je vais acheter un char, le vendeur, il a-tu l'air de connaître les autos qu'il vend? Et deuxièmement, la chaleur dégagée. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je sens qu'il y a un contact? Y a-tu du human dans l'affaire ou bien c'est un robot? Puis les proportions seraient, ça c'est dans Soyez compris, seraient de 25-75. C'est-à-dire qu'on accorde notre confiance à quelqu'un qui nous a dégagé une bonne impression, avec qui on sent qu'il y a une proximité, plus que sa compétence qu'on pense qu'il y a, qui est évidemment le premier critère qu'il faut régler. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'il est incompétent, il a beau être un gars avec qui on veut aller passer sa soirée, on l'achètera pas pareil, ou on va y aller au breuvage, mais ça va être à la fin, en tout cas, moi, y penser. Donc, c'est sûr que la compétence pour donner confiance à quelqu'un, c'est le critère de base, mais c'est pas le critère qui est le plus important en termes d'intensité. C'est, on règle la question de la compétence, OK, c'est réglé. Là, après ça, là, ce qui va faire la vraie différence. Fait que voyez-vous, c'est hyper intéressant. Donc, d'avoir du fun dans une période comme aujourd'hui, parce que c'est pour ça que l'article m'a interpellé, c'est que je me dis, c'est quand la dernière fois que vous avez eu du gros fun depuis 2 ans? Il y a du monde pour qui ça n'a pas changé, puis il y a du monde pour qui ça a été plus difficile pour des raisons d'anxiété, de stress, de telle affaire. C'est très respectable. Tout le monde n'a pas la même légèreté d'âme, je dirais, de dire « bon, ça va mal, mais c'est pas grave » ou peu importe. Ça fait que voilà, je trouve ça intéressant, le thème du rire. Puis ma sœur, quand j'étais en Floride, lisait un livre qui s'appelait « The Power of Fun ». Puis la première page, c'est quand la dernière fois que vous avez eu du gros fun, tu sais. Puis elle m'en a parlé en disant « j'ai eu de la misère à répondre. J'ai eu de la misère à répondre. » Daniel a travaillé 25-30 ans, dont les 14 dernières à New York pour Clarence, à se lever à 5h30 puis à revenir à 7h, tu sais. Ça fait que je suppose que c'était le fun en général, là, tu sais, mais pour qu'elle se pose la question quand elle lit, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a interpellé, tu sais. Moi, si vous me le demandez, c'est quand la dernière fois que j'ai vraiment ri, c'est il y a précisément une journée, c'était hier matin ou avant-hier matin, quand j'ai... Je sais pas c'est où que j'ai vu ça ou qui m'a envoyé ça, mais c'était une figurine Mr. E.T. Écoute, je l'ai mis en story sur mon Instagram parce que c'est rare que j'envoie sur mon Instagram juste des niaiseries, mais j'ai tellement ri. Tu sais, c'est vraiment une petite figurine là, qui vient là, dans un truc, là, une bulle en plastique là, sur un carton, comme quand t'achetais des G.I. Joe, ben des n'importe quoi. Là. Puis c'est E.T., mais avec un peu le look de Mr. T., qui est Clubber Lang dans le Rocky 3. Ça fait qu'évidemment, si vous avez 20 ans, vous savez pas de quoi je parle, mais ça fait que c'est E.T. avec un mohawk puis des bijoux. C'est mystery. C'est tellement absurde. Ça me fait capoter. Puis ce qui est doublement absurde, c'est qu'il y a une compagnie de jouets qui a fait « Hey, ça, c'est hot. Ça n'a jamais existé. Mr. T existe. E.T. existe. Nous autres, on va faire une figurine qui va mixer les deux. C'est mystery. Cherchez-le sur Google. Vous allez capoter. » Bon, ben j'y pleurais. Puis là, j'ai envoyé ça à toute ma gang de billets ouverts, puis au plus de monde possible, tu sais. J'ai tout le temps fait ça, que ça aille bien ou mal. Alors, évidemment, j'ai eu une période, genre, de dépression quand j'en ai déjà parlé, j'avais une 32, 33, genre, là, quelque chose de même. Puis là, c'est sûr que du fun, puis tout, j'en ai pas eu. Là, vraiment, là, j'espère que vous comprenez pas ce que je dis, genre, ayez du fun, fermez vos yeux, c'est pas ça, là. Je parle juste de cette thématique-là ce matin, que je trouve qui est importante. Puis que la question à se poser, c'est quand la dernière fois que vous avez eu du gros fun? Colin, si vous avez de la misère à répondre, pas de farce. J'ai pas de leçon à vous donner, mais questionnez-vous, demandez-vous, est-ce que je suis à bonne place? Je suis avec le bon monde, je suis à bonne place? Moi, il y a une fille que j'ai fréquentée il y a à peu près 2 ans, puis tout le long, j'avais l'impression que dans son discours, un peu, c'était comme, elle était tannée de l'environnement qu'elle avait. Elle était tannée de la ville où elle était, du monde qu'elle fréquentait, tu sais. Puis même moi, j'avais fait le commentaire, j'ai dit, c'est drôle, je t'écoute, puis on dirait que tu veux, comme une couleuvre, tu veux changer de peau. T'sais. Au lac aux Sables, je me souviens, je voyais ça des fois, là, des peaux de serpent, là, c'était des couleuvres en l'occurrence, il n'y a pas de beau au lac aux Sables, mais... Puis l'expression, je l'aime, tu sais, puis il y a beaucoup de monde qui sont de même, c'est tough, t'sais. Changer quasiment de vie, c'est difficile. Mais c'est souvent ça la raison qui fait qu'on manque de fun et qu'on a l'impression que c'est tout sérieux, mon affaire. Puis c'est parce que la balle ne revient pas avec le monde avec qui on devrait être. Puis le burn-out, c'est souvent ça. Les gens pensent que c'est toujours de l'épuisement professionnel. Non. Un burn-out, c'est souvent que tu n'es pas à bonne place. Ça veut dire que tu t'agis dans un environnement qui te convient zéro, avec du monde qui ne te convient pas. Tu n'es pas à bonne place, puis tu craques. Tu craques pas parce que t'as trop travaillé puis t'es brûlé, c'est faux. Ça arrive, mais c'est plein de monde qui appelle ça un burn-out quand en réalité, il y a un... Je sais pas c'est quoi, mais t'es pas dans tes souliers. T'es pas à bonne place. Tu fréquentes du monde avec qui c'est tough, ça vient te chercher, puis le lendemain matin, tu recommences. Mais... Pardon, là, mais... Ça fait qu'en tout cas, c'est un peu ça que je voulais vous dire ce matin. C'est pas une recette, malgré que j'y crois que arrêter de penser qu'il faut être sérieux pour être crédible, arrêter ça là. Puis voilà. Donc pour le reste, écrivez-moi, ça fait toujours plaisir. Salut!